L'éternel retour. Adolescente, quand j'ai découvert cette formulation sans connaître le sens que Nietzsche lui attribuait, j'ai été éblouie. Il existait donc un ordre du destin, une injonction à retrouver le lieu initial et idéal. Si même un philosophe allemand le décrétait, j'y arriverais forcément. Et puis, j'ai su qu'il s'agissait de l'éternel retour de l'identique, et que cela n'avait rien de géographique. Nietzsche précisait qu'il n'y avait pas d'idée dont il importait autant de se réjouir, et je ne voyais pas pourquoi cela posait problème. 40 années se sont écoulées depuis, et je comprends pourquoi c'est si ardu. À l'échelle de ma vie, l'éternel retour de l'identique consiste à aller au Japon pour m'apercevoir que ce retour est impossible, que l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. L'accepter, j'en suis capable. Nietzsche rabâche qu'il faut s'en réjouir, sauf à ne pas devenir un grand vivant. C'est là que le bât blesse. Je ne parviens pas à m'en réjouir. Je vois combien l'équation de l'impossible retour fait sens pour moi. Mais m'en réjouir, me réjouir de ce qui fonde ma mélancolie. N'y a-t-il pas un mur de différence entre accepter et se réjouir? Peut-être en effet ne serai-je jamais une grande vivante. Et Nietzsche, là où il est, détournera le regard de moi. Plus le temps passe et plus j'ai l'impression que nous sommes nombreux dans la confrérie. Nous sommes appelés, je crois, à peupler de plus en plus le monde, nous qui avons perdu un lieu aimé, à quelque titre que ce soit, et qui avons tenté de le retrouver, pour découvrir l'impossibilité du retour.
Vous venez d'écouter un livre audio publié par Audiolib.